Bonjour tout le monde. Je mentionne que hier soir, on a eu une belle soirée de louanges qui s'appelle Allumer. Donc, l'idée, c'est est-ce que tu veux que ton cœur soit allumé? On était une cinquantaine de personnes. C'était vraiment un moment puissant, un moment béni. Merci à Tim et à son équipe qui l'ont organisé et pour tout l'encouragement et le contact avec le Saint-Esprit que ça a permis. Merci Tim, je vois que tu es occupé, mais et gloire à Dieu surtout, gloire à Dieu. L'autre chose, je vois que, j'allais dire bienvenue à Benoît, donc Benoît et Claire étaient en voyage, je les vois de retour et on est heureux de les voir. Alors, le message d'aujourd'hui, nous poursuivons dans notre série dans l'Évangile de Marc. Jésus manifeste publiquement sa victoire. Alors, je vous ai déjà montré ça, c'est rien de grave, ne vous inquiétez pas. C'est un petit problème de ligament. Dans l'Évangile de Marc, nous voyons que Jésus est un sauveur victorieux sur toutes les forces du mal. Rien ne peut l'arrêter. Il est vainqueur de chaque bataille. Et il y a quelque temps, on a vu la première grosse bataille, c'était avec Satan lui-même, 40 jours dans le désert. Une victoire de Jésus, mais cachée aux yeux des hommes. Et ce matin, ronde 2, Jésus va s'en prendre à un démon, ici dans un lieu public, dans la synagogue de Capernaum, une autre victoire de Jésus. On va lire le texte, mais d'abord, prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, on a vraiment besoin de ton aide ce matin pour comprendre qui tu es. Nous te célébrons, comme on a fait tantôt dans la musique. On veut aussi te célébrer en écoutant tes exploits. Mais on veut comprendre, aide-nous à comprendre, pour notre situation, quelle est l'ampleur de ta victoire sur le mal et sur Satan. Parce qu'on veut la vivre dans nos vies, grâce à toi et avec ta présence avec nous. Père, nous voulons devenir tes instruments dans ce monde pour répandre la victoire de Jésus, mais montre-nous comment. Parle-nous par le Saint-Esprit. Envoie-nous l'Esprit Saint. Ouvre notre intelligence spirituelle pour comprendre et savoir comment vivre ces choses. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, voici le texte. Jésus vient de commencer son ministère en Galilée. Il est avec des disciples et ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Donc, on voit ici Jésus entrer dans un rassemblement public et il se met à enseigner. C'est comme s'il allumait une lumière éblouissante dans un endroit sombre. Et il y a de la réaction. Et elle n'est pas toujours positive, cette réaction. J'ai déjà habité dans un appartement en ville qui, à un certain moment, il y a eu une infestation de coquerelles. Je suis désolé de mentionner ça. Je sais que certains d'entre vous ont eu des difficultés avec les coquerelles dans votre immeuble. C'est des choses qui arrivent dans les grandes villes. Moi, je n'ai pas aimé ça du tout, d'avoir des coquerelles dans mon appartement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà vécu ça? Oh, man! OK, tu connais quelqu'un. C'est vrai, c'est pas agréable. Oui, c'est leur attitude que j'aime pas. La nuit, en particulier, quand tu te réveilles, tu rentres dans la salle de bain ou la cuisine, t'allumes la lumière et la coquerelle, c'est une coquerelle qui est en train de se prélasser dans la noirceur au milieu de quelque part de découvert. Qu'est-ce qu'elle fait, la coquerelle? Réaction négative. Elle n'est pas contente de ma présence. Elle exprime sa haine en courant. Elle n'aime pas la lumière non plus. Elle va se cacher quelque part. Elle s'enfuit. Ce matin, on a une leçon qui a un rapport avec la lumière, mais que Jésus a apporté et apporte. C'est un peu le résumé de ce que j'essaie de dire aujourd'hui à partir de ce texte. Exposons-nous à la lumière que Jésus apporte dans nos vies. Vivons dans cette lumière. Et il éloignera de nous et il éloignera par nous les influences mauvaises. Donc, exposons-nous à cette lumière de Jésus. Il éloignera de nous les influences mauvaises et il éloignera par nous ces influences mauvaises. Alors, j'aimerais ce matin, à partir du texte qu'on a lu, quelle histoire, juste regarder trois phrases qui nous amènent à l'essentiel. La première phrase, Jésus enseignait. Après ça, la deuxième phrase qu'on va voir, l'homme avait un esprit impur. Et la troisième phrase, tais-toi et sors. Alors, commençons avec Jésus enseignait. Donc, Jésus est déjà en train de parcourir la Galilée en annonçant la bonne nouvelle. Avec lui, le règne de Dieu s'est approché des humains. Et la bonne nouvelle, c'est que par la foi et la repentance, chacun pouvait entrer dans le règne. Et il leur expliquait la repentance, la clé, c'est de renoncer, céder mon attachement à toute autre priorité et suivre Jésus selon ce qu'il me demande de faire. Et on voit des gens commencer à faire ça. Ce qu'on voit aussi dans l'évangile de Marc, c'est que c'est sa priorité. Jésus veut annoncer le règne et que les hommes peuvent entrer dans le règne et que le règne de Dieu peut entrer en eux. C'est ça sa priorité. C'est pas les guérisons et c'est pas le chassage de démons ou d'esprits impurs. Ces deux choses-là, je vais les grouper ensemble, les guérisons, les délivrances, c'est des conséquences de cette proclamation, cet enseignement du règne et du fait que les gens le reçoivent. Et il y a des guérisons qui vont se passer soit à cause de cette foi qui est mise en action grâce à cet enseignement, ou des fois c'est des signes que Dieu donne pour aider les gens à croire et à entrer dans le règne. Mais la priorité de Jésus, c'est d'enseigner cette bonne nouvelle. Un point important que je voudrais dire ici, la bonne nouvelle du royaume, c'est une bonne nouvelle à propos de Jésus lui-même. Donc, il ne le dit pas explicitement au début, mais dans tout l'évangile, on voit que ça devient clair. La bonne nouvelle du royaume, c'est lui. Le royaume, c'est un règne et le roi que Dieu va introniser, c'est Jésus lui-même. Il est Dieu le Fils, il est le Saint de Dieu, venu pour être roi. Il est venu, il est la victoire de Dieu envoyée par le Père pour amener la lumière et la victoire dans le monde et dans nos vies. Amen. C'est vraiment quelque chose qui paraissait dans son enseignement. Il y avait quelque chose de différent dans sa manière d'enseigner. Ce n'était pas distant. C'était comme, je viens vous enseigner quelque chose de nouveau et c'est très proche de vous parce que c'est moi. Et il avait une telle confiance, une telle assurance de qui il était et quel était son rôle, que les gens étaient frappés par l'autorité, la réalité proche de Dieu dans son enseignement. Accrochez-vous à ma personne parce que la victoire de Dieu, la lumière de Dieu est arrivée dans le monde. Merci. Gloire à Dieu. C'est bon, les amen. Oui, les prédicateurs, ils aiment ça. Et une nouvelle étape spirituelle est inaugurée avec Jésus. Et sa victoire, c'est contre le mal et les forces du mal. Et on a vu au début, la mention d'un être. Tout d'un coup, on entend que Satan est dans le désert pour se battre avec Jésus. Il va perdre ce combat-là, et celui-ci aussi. Mais Jésus est venu non pas juste pour sauver un homme, une femme, un enfant de ses péchés ou de leur dette de culpabilité, mais aussi de l'emprise de Satan dans sa vie. Et c'est la croix avec la résurrection qui va sceller cette victoire. Maintenant, l'affaire, c'est que Jésus a gagné de grands combats et à sa croix, il a assuré la victoire finale contre le mal et le règne de Dieu pour toujours. Mais la guerre a continué quand même. C'est ça qui est un peu difficile à vivre. Pourtant, il faut bien le comprendre. Après la croix, la guerre ne sera pas encore finie. Et ça me rappelle un paradoxe qui a été raconté dans une histoire que peut-être j'ai déjà racontée, mais c'est très important pour comprendre le déjà et le pas encore. Voilà, donc, c'est l'histoire d'un camp de prisonniers de guerre alliés en Allemagne, durant la Deuxième Guerre mondiale, et un des prisonniers alliés avait réussi à, je ne sais pas comment il a fait, mais confectionner un poste de radio, un récepteur radio, secrètement, pour écouter clandestinement les nouvelles britanniques qui s'en venaient par la BBC. Et il a appris secrètement, dans le camp de prisonniers de guerre, que les Alliés venaient de débarquer en Normandie. Et il y a eu, le premier jour, le jour J, il y a 150 000 troupes qui ont débarqué. Et voici une photo, pas de ce jour-là, mais d'autres jours qui ont suivi. On pense peut-être 1 million, un staff et avec des soldats de 1 million ont débarqué avec beaucoup d'équipement. Ils ont percé les défenses côtières des Allemands et maintenant ces armées-là avançaient vers l'Allemagne. La guerre était déjà maintenant gagnée pour les Alliés, mais n'était pas encore terminée. Alors, dans cette histoire, les Allemands redoublent de force pour se battre. Les prisonniers du camp savent qu'ils ont déjà gagné, ils sont déjà victorieux, ils ont des gros sourires, ils sont relax, et les gardes de prison ne savent pas pourquoi, et ils redoublent même d'agressivité contre eux. La guerre est déjà gagnée, mais elle n'est pas encore finie. Voyez-vous la nuance? Voyez-vous le paradoxe? Et nous, on est là-dedans. On est dans une guerre déjà gagnée, mais pas terminée. Et donc, ça veut dire qu'il faut que nous aussi, nous nous armons pour vraiment vivre dans le combat spirituel contre les forces du mal. Déjà vaincus, mais toujours très actives et parfois encore plus actives. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, et nous y sommes peut-être, à la fin des temps, l'ennemi et ses suppôts vont redoubler d'énergie pour s'attaquer aux humains, pour les entraîner avec eux dans la perdition, et s'attaquer aussi aux enfants de Dieu déjà sauvés pour les entraver dans leur foi et leur mission. Continuons alors à nous exposer à l'Évangile, cet enseignement de Jésus qui nous dit « Je suis la victoire, accrochez-vous à moi, sa lumière. » Continuons à partager cet Évangile. Lorsque nous orientons les gens vers Jésus en annonçant la bonne nouvelle, nous sommes transmetteurs de la lumière. Et vous savez que même juste en vivant nos vies chrétiennes comme il faut, les forces de Satan reculent. C'est déjà un élément très important, mais nous allons aller plus loin. Avec la deuxième phrase qui est « L'homme avait un esprit impur. » Dans cette synagogue, alors Jésus entre et puis il allume la lumière. Et il y a dans la communauté quelqu'un qui est là et qui souffre. Mais sans doute que les gens se disaient, le pauvre, il fait partie de notre gang, on le trouve bizarre, on le laisse tranquille. En fait, il y avait une coquerelle qui était présente. Mais ce n'était pas lui, c'était un esprit à l'intérieur de lui. Un démon qui a carrément pris domicile dans le corps, dans l'être de la personne. Il contrôlait l'homme et le faisait souffrir. Les gens ne se rendaient pas compte de la source invisible de sa souffrance, de son problème. Et puis donc, quand Jésus vient, le démon ne peut pas rester invisible. Et c'est comme la lumière le force, malgré lui, à se manifester. Il ne peut plus passer inaperçu. Et il pousse l'homme dans lequel il vit vers Jésus dans un acte désespéré pour supplier Jésus de s'en aller de la synagogue, de le laisser tranquille. Il sait, au fond, cet esprit méchant, ce démon, il sait que son pouvoir sur cet homme va bientôt être terminé. Une chose sur laquelle la Bible insiste, c'est que Satan et les démons existent vraiment. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que ce sont des croyances du passé. Une manière d'expliquer entre autres, les problèmes psychologiques et psychiatriques avant que la science moderne les ait démystifiés pour nous. Et c'est vrai que la science nous a permis de comprendre que beaucoup de problèmes de comportement, de pensée et d'émotion sont des maladies et souvent explicables même physiquement. Ce ne sont pas des possessions spirituelles. Mais dans les évangiles, nous voyons que Jésus est capable de discerner des cas où c'est plus qu'une maladie, comme avec cet homme. Et de tels cas existent encore aujourd'hui. Il y a donc des cas où la personne malade, elle a un autre être qui a réussi à entrer à l'intérieur d'elle. Un être spirituel qui n'est pas lui, mais qui a réussi à entrer et qui a pris contrôle d'une partie plus ou moins grande de sa vie. Alors, je lisais récemment, mais j'ai essayé de faire le plus de lectures possibles cette semaine sur le sujet, et j'ai lu quelque chose de très beau, que ça n'a aucune comparaison avec la présence du Saint-Esprit en nous quand on est chrétien. Quand Jésus habite en nous, c'est quelque chose de plus profond, de plus complet, de plus total. Un ennemi comme ça, c'est quelque chose de moins proche de nous, mais quand même, c'est quelque chose de vrai. Apparemment, un démon peut entrer dans un humain. Et Jésus détectait les signes pour poser le bon diagnostic au bon moment. Alors ici, on voit qu'une autre personne s'exprime à travers la personne. On sent que c'est une autre personne réelle qui parle, un être qui parle, mais avec une vision autre et une volonté autre que celle de la personne habitée. Et cette autre personne démontre une volonté vraiment maléfique. On voit que c'est comme une personne qui a un certain contrôle et qui cherche à faire du mal, à détruire la personne et aussi à faire du mal autour d'elle. Et on le voit ici, Jésus réussit à lui faire dire qu'elle a un lien avec le royaume des ténèbres. Tu es venu pour nous, Père. Donc là, il dévoile cet être maléfique qu'il a une connexion avec l'empire de l'ennemi. Je ne parle pas ici de la condition psychologique qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité, qui existe aussi, qui est une maladie psychologique, personnalité multiple. Le symptôme de ce désordre, ce n'est pas la preuve d'un esprit impur. Une personne peut avoir ce désordre-là et prendre des personnalités différentes, mais ne démontre pas forcément qu'il y a un être maléfique qui est entré et qui cherche à le détruire. Ça pourrait arriver, mais il faut être très prudent. Jésus évalue la situation, en tout cas, de cet homme et pose le diagnostic, et puis il va chasser le démon. Et on voit que le résultat, la personne redevient elle-même. Et on voit ça plusieurs fois dans l'Évangile, on va en voir d'autres cas. La Bible nous enseigne que Satan et les démons sont des créatures de Dieu, sont seulement des créatures comme nous. Par contre, ils sont plus puissants que nous. Ce sont des anges créés pour exercer du pouvoir pour Dieu. Ils se sont rebellés contre Dieu et chassés de son paradis. Ils savent que leur fin, c'est la perdition et cherchent, depuis le début des temps, à entraîner le plus d'êtres humains possible avec eux dans leur rébellion et dans leur perdition. Alors, c'est quoi leur stratégie pour nous entraîner, nous et d'autres? Et mon résumé ici est incomplet, mais j'ai mis ce que je trouvais était le plus important. La stratégie la plus répandue, celle avec laquelle on va avoir le plus de travail à faire, c'est l'influence extérieure. Influencer les êtres humains depuis l'extérieur de leur corps et de leur âme, en leur parlant, en leur suggérant des idées, des choses. Donc, autrement dit, les possessions, c'est quelque chose de beaucoup plus rare, même si ça existe. Alors, voici les méthodes dont la Bible parle beaucoup au niveau de l'influence extérieure de Satan et de son armée. La tentation, d'abord. Il y a plusieurs sources de tentation. Des fois, la tentation peut venir de l'intérieur de ton corps, Satan peut aussi venir tenter l'être humain pour amener une personne à faire le mal, désobéir à la volonté de Dieu et y prendre goût. Deuxièmement, l'accusation amène une personne à croire des mensonges sur elle-même et sur Dieu, souvent dans le sens « Ah, je suis tellement une mauvaise personne que Dieu ne va jamais m'aimer. » Ça peut être l'ennemi qui souffle ça à la personne pour la convaincre. Et puis, il y a aussi l'affliction ou l'oppression. Ça, c'est quand l'ennemi, par exemple, lui-même a réussi à causer des souffrances dans la vie de quelqu'un pour essayer d'handicaper son âme à long terme, pour diminuer ou détruire leur foi en Dieu. On voit ça, par exemple, dans le cas extrême de Job dans la Bible, où c'est l'ennemi qui est derrière ses afflictions. Mais avec l'affliction vient l'oppression, un langage, une idée mensongère répétée. Tu n'es plus important pour Dieu. Tu es aussi bien de te rebeller avec nous autres. Viens de notre bord. Et même Paul, rempli de l'Esprit, l'apôtre, a eu une affliction de ce genre, une oppression. Dans 2 Corinthiens 12, Satan a réussi à avoir la permission de Dieu de mettre une écharde dans la chair à Paul. Et apparemment, que c'était comme si il recevait des gifles de Satan dans cette oppression-là. C'est une oppression extérieure, ça aussi. Et donc, même un chrétien rempli d'esprit peut être oppressé. La possession est une autre stratégie, plus rare. Quand quelqu'un, il semble, la Bible n'explique pas beaucoup comment est-ce que les gens en finissent par être habités par un démon. On les voit qui sont là, mais on pense qu'une personne étant faible, étant vulnérable psychologiquement, imprudente dans le domaine spirituel, par exemple, avec les sciences occultes. Cette personne, apparemment, peut devenir à risque d'une démonisation interne. Comme je dis, dans mon monde à moi, je vois que c'est plutôt rare. Je pensais à ça ce matin, je me disais... Quand en Galilée, on entendait « Jésus s'en vient dans notre village, amenons nos possédés sur la place publique pour qu'ils les guérissent », ils en amenaient quand même plusieurs. Mais moi, si on me disait « Jésus s'en vient à Dorval, amène tes possédés pour qu'ils les guérissent », j'aurais plusieurs idées de personnes qui souffrent, qui sont affligées. Mais honnêtement, des possédés, est-ce que j'en connais vraiment? Voyez-vous, c'est rare dans mon contexte. Ça ne l'était pas dans le contexte de Jésus. C'était une stratégie. Peut-être que Satan s'est dit, le Fils de Dieu s'en vient, on va vraiment amener une opposition ferme en utilisant cette stratégie d'entrer dans des gens vulnérables. Et il y avait beaucoup de possédés à cette époque. Une chose que je dois dire, très important, si tu es disciple de Jésus et que tu l'as accepté dans ta vie comme ton Seigneur, ton copilote, tu ne peux pas être possédé par un démon. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, ça c'est ma conviction. Il n'y a plus de place à un autre esprit à l'intérieur de toi, si l'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne peux pas être possédé par un démon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, fais quand même bien attention, parce que Satan et ses anges rôdent toujours autour de toi, et par ses actions extérieures, dont les trois que je viens de mentionner ici, il cherche à avoir un accès. Il cherche, chaque fois que tu lui cèdes l'accès, il va savoir comment en profiter pour aller plus loin. Et cette oppression extérieure peut devenir plus grande. Et je pense que quand on parle de renverser des forteresses, et nous connaissons le ministère dans lequel Michel Élise et Élise et d'autres sont impliqués, ce sont, je pense souvent, des oppressions forte extérieure, mais où Satan, il a le pied dans la porte de l'âme de cette chrétienne ou de ce chrétien, et il a vraiment besoin d'aide. Donc, c'est pas parce que tu peux pas être possédé qu'il faut se reposer. Tu es dans un combat spirituel, tu dois résister. Vous savez, Dieu a dit à par Paul, aux nouveaux chrétiens engagés de l'église d'Éphèse, il leur dit, faites attention à la colère. Peut-être que tu es fâché contre une sœur, un frère ou ton conjoint. Et il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, deal avec par le Saint-Esprit et ne laissez pas accès au diable. Vous voyez que le diable, il peut quand même avoir un accès, même si nous sommes chrétiens et remplis du Saint-Esprit. Donc, continuons notre combat. Là, je ne peux plus porter ma montre à cause de ça. Je ne sais pas quelle heure il est. Le temps avance. Allons-y avec notre troisième phrase. Tais-toi et sors. Donc, cette phrase de Jésus. J'ai dit qu'il était capable de discerner, de diagnostiquer. Et ici, c'est devenu clair, la coquerelle est sortie, s'est manifestée. L'approche de Jésus pour chasser un esprit impur qui a démonisé intérieurement une personne, son approche est simple. On marque et il ne dialogue pas avec l'esprit. L'esprit, lui, l'esprit impur, cherche à ouvrir le dialogue avec Jésus. Et peut-être réussir à susciter la pitié de Jésus. S'il vous plaît, laisse-nous tranquille. Ça n'a pas marché. Et Jésus refuse de dialoguer. Il garde ça simple. Il dit, tais-toi, puis sors de cet homme. Pas de rituel compliqué, pas d'incantation. Par sa présence même et sa parole puissante, il chasse le démon. Et puis, il va en chasser en très grand nombre. Bon, la question difficile, comment appliquer ça aujourd'hui? Nous, en tant que chrétiens, ici à l'Oasis, et si nous marchons avec Christ dans notre mission aujourd'hui, on est en train de poursuivre cette victoire que Jésus a déjà gagnée. Alors, notre travail, c'est quoi? Et moi, je voudrais que, dire que tout ce qu'on fait, ça a une incidence sur le recul des forces du mal. Et ça a une incidence sur Satan et les démons eux-mêmes, que la Bible dit rôdent tout autour de nous pour voir qui ils peuvent dévorer. Alors, quand nous annonçons l'Évangile, quand nous évangélisons par proclamation même, juste dans le partage privé, on est en train d'amener quelqu'un à sortir de l'emprise des forces du mal. Lorsque cette personne reçoit Christ, les démons doivent s'éloigner de cette personne jusqu'à un certain point. Elle entre dans le royaume de lumière de Christ où les démons n'aiment pas être. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, la communion, je ne sais pas si j'ai ce point-là ici. En tout cas, non. Le fait de bâtir la communion chrétienne entre nous, il y a beaucoup de lumière qui est produite et juste ça, ça éloigne Satan et les démons, dans le sens, ils sont là, ils attendent les occasions, mais ils doivent se tenir loin. Et c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les évangiles, dans les actes, où on annonce le royaume pour la première fois, on voit beaucoup plus de cas de démonisés que dans les épîtres, où Paul écrit à des églises comme nous, qui vivent la foi ensemble, qui vivent dans la lumière. Il y a, je pense, presque jamais mention de possession démoniaque dans les églises, par exemple à Éphèse, à Colosse, à Thessalonique et ainsi de suite. Donc, il faut bâtir notre communion et cela fait reculer les démons. Ensuite, encourager les chrétiens et prouver à tenir ferme, à ne pas se décourager dans la tentation de croire des choses fausses. Puis, prier avec ceux qui sont oppressés. Prier pour les chrétiens qui, de l'extérieur d'eux, ont commencé à écouter, acquiescer des mensonges d'un démon. Il faut prier avec eux pour casser cette forteresse dans leur âme, dans leur croyance. Et c'est peut-être un ministère que tous les croyants peuvent faire, mais c'est bon de le faire en groupe, de le faire ensemble. Et à plus forte raison, dans un cas qui pourrait arriver, où on pense qu'il y a peut-être une personne affligée d'une démonisation intérieure véritable, là aussi, il faudrait qu'on travaille ensemble, surtout avec Christ, dans la prière, premièrement, pour s'assurer qu'on a le bon diagnostic. Parce que ça peut faire des dommages d'essayer de chasser un démon qui n'est pas là. Ça peut agir sur la psychologie de la personne. Mais si vraiment c'est le bon diagnostic, nous aussi, il nous faudra, avec l'autorité de Christ qui est en nous, dire cette même phrase. Au nom de Jésus, tais-toi et sors. Alors, je voudrais dire, j'ai fait de la lecture pour parler de ces choses et vous voyez que c'est juste un résumé, puis il y aura encore beaucoup à dire. Ça, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai sorti de la bibliothèque de l'ETEC. En fait, c'est un livre de théologie, mais des livres, nous, du mal, d'Alain Nisus. Alain Nisus, nous l'avons entendu il y a un an ici, qui nous a parlé des psaumes. C'est le professeur de Tim. Et donc, traité théologique de la démonologie biblique. Mais en fait, beaucoup de choses que j'ai dit ce matin, il développe là-dessus. Et Et l'idée, c'est que pour nous, nous voulons le vivre ensemble. Vivre ensemble, non pas d'être focalisé sur Satan, pas du tout, mais voici ce qu'on a vu ce matin. Jésus enseignait, je conclue maintenant, il enseignait, il y avait un homme avec un esprit impur, tais-toi et sors. Et avec ces trois phrases, on a résumé en disant ceci pour nous aujourd'hui, exposons-nous à la lumière que Jésus apporte dans nos vies. Vivons dans cette lumière, cultivons cette lumière de Christ et il éloignera de nous et par nous les influences mauvaises. On est là pour ça. Pour nous exposer, ce n'est pas automatique, il faut faire des efforts. Soyons quand même fidèles à nos réunions. En semaine, qu'est-ce qui nous empêche de profiter de la musique chrétienne et même de chanter les louanges de Dieu, de prier en famille et seul, et d'écouter Dieu pour les décisions que nous avons à prendre. Mémoriser des versets, parce que je pense que quand on est dans une situation où Jésus était avec une confrontation avec un ennemi comme cela, les versets appris par cœur, ça aide pour rester ferme. Et bien sûr, servir le peuple de Dieu. Ce sont toutes des manières de cultiver cette lumière pour rester exposé. Et de cette manière, nous garderons cette vigilance dont nous avons besoin par rapport aux démons, mais notre focus, il est sur Dieu, sa beauté, sa volonté pour nous. Et quand on est dans la lumière, tout en étant vigilant, on n'a pas à tourner les regards vers les ténèbres. Je termine avec ce verset et après, on va prier. Ne vous conformez pas au monde actuel, là où Satan a beaucoup d'activités et d'emprises. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Prions ensemble. Père, je me suis senti faible devant ce sujet et en admiration devant toi, Jésus, qui a été si fort, si connaissant, si prêt pour cette situation. Je me suis senti faible, mais je veux te dire merci de m'avoir aidé cette semaine, de nous avoir guidés ce matin et d'avoir été présent avec chacun, chacune pour voir, voici un pas que je pourrais faire pour m'exposer à cette lumière, peut-être pour aider quelqu'un d'autre. Alors, Père, fais de nous, fais de l'Oasis, un feu qui brûle toujours plus grand, plus fort. Merci pour la soirée d'hier, la soirée de louange, où c'était comme un feu avec des bûches qui s'approchaient l'une de l'autre et ça augmente la température spirituelle. Et quelqu'un m'a dit, après ce grand moment, et je me suis senti rempli du Saint-Esprit, puis ça me sortait par les oreilles. Et ça m'a fait plaisir, parce que nous voulons être remplis toujours plus de ton esprit, et en sachant que cela va, que cela va faire reculer l'emprise, la voix des esprits impurs envers nous et même envers d'autres. Nous te prions, nous te remercions au nom de Christ.